Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'accueillir ici ce soir Jacques Ravenne, qui donc vient nous présenter un livre qui sort en fait demain, ce qui est assez rare. Nous avons donc droit à une sorte d'apparition publique avant la sortie officielle. Je vous avouerai que la librairie, nous l'avons depuis 2-3 jours. Moi-même, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Donc, pour vous présenter ce livre, j'y ai passé des jours et des nuits. Et je tenais à le lire d'entrée. J'ai passé quelques nuits donc avec Sade et Jacques Ravenne, voilà. Et je suppose que Jacques Ravenne lui-même n'a pas passé quelques nuits, mais il a passé quelques mois avec ce personnage. Alors, Jacques Ravenne est là pour nous présenter Les Sept Vies du Marquis, qui paraît dans une vieille nouvelle maison d'édition, puisque c'est le premier livre à paraître sous le nom de Fleuve Édition, anciennement Fleuve Noir. Donc, la noirceur s'est éloignée pour n'être plus qu'un fleuve. Et donc, le premier livre qui paraît sous cette collection est un livre plutôt sombre, on va dire, qui s'appelle « Les Sept Vies du Marquis ». Alors, Jacques Ravenne est loin d'être un inconnu. La dernière fois que nous l'avions reçu, c'était en compagnie de son compère Éric Giacometti, avec qui il est l'auteur d'une série de best-sellers assez impressionnants. Je pense qu'il y a huit volumes désormais qui sont parus et qui mettent en scène le commissaire Antoine Marcas, c'est ça, qui est un commissaire franc-maçon. Alors, c'est un best-seller assez impressionnant qui exploite un genre peu fréquent en France, qui est le polar un peu mystérieux. Hein. Et voilà, comme dans les groupes de rock, parfois il y a des moments où on fait une carrière solo, et donc Jacques Ravenne se lance pour un petit moment solo avec un livre qu'il sort ces jours-ci. Un livre vraiment très étonnant autour du Marquis de Sade. Alors Jacques Ravenne, vous avez la passion de Sade, j'ai le sentiment que on ne s'attaque pas à ce personnage si on n'y est pas franchement ou totalement intéressé. Il va nous expliquer sans doute d'où cela lui vient, comment on peut décider un jour de s'emparer de ce personnage pour en faire un être de roman, un roman vrai. Et il a décidé, enfin il a trouvé que cet homme avait non seulement une vie, mais peut-être même 6, voire 7, et que ces 7 vies-là valaient la peine d'être racontées. Alors, Jacques Ravenne, merci d'être venu. Dites-nous d'abord d'où vous vient cet intérêt. Alors, je serai plus neutre en disant cet intérêt pour le Marquis de Sade.
Oui, parce que le terme passion, quand on parle de Sade, peut toujours être quand même relativement subjectif, puisque comme vous le savez, le personnage est quelque peu sulfureux, et depuis très longtemps, en fait, sa légende envahit sa vraie vie. Il faut quand même voir que c'est un des rares personnages, Sade, dont le nom propre est devenu un nom commun. Depuis très longtemps, on en a en fait très très peu. On connaît mal le préfet Poubelle qui a donné la poubelle, mais partout où vous allez dans le monde, quand vous prononcez le mot Sade, tout le monde sait ce que c'est que Sade et le sadisme. On peut peut-être expliquer pourquoi, d'ailleurs, c'est un psychiatre allemand qui s'appelait Graf Edbings, quand il a fait sa typologie des déviations sexuelles, est tombé un jour sur une édition des 120 journées de Sodome, qui a été pour la première fois éditée en Allemagne, et quand il a lu ça, ça lui a paru absolument évident. Il a pris Sade, il a rajouté Isme en allemand, et à partir de là, la célébrité est arrivée. Et qu'en même temps, il avait pris un écrivain, alors il est allé voir du côté d'un autre écrivain autrichien, qui s'appelait Sacher von Masoch, et il a pris Masoch, il a rajouté masochisme, et cette fois ça a été fait, et ça a été totalement définitif. Donc le problème de Sade, c'est qu'il est enfermé en fait dans une autre prison depuis maintenant plus d'un siècle, qui est la prison de sa réputation. Sade, c'est le sadisme, Sade, c'est le plaisir par la souffrance, et c'est définitif. À la vérité, c'est devenu un nom, on ne le lit quasiment plus, surtout depuis qu'il a été pléiadisé, il faut être très clair, parfois il y a des pléiadisations qui sont des panthéonisations mortelles, et l'homme en lui-même est devenu sa propre légende. Quand on parle de Sade, on imagine des femmes éventrées, des fouets, des meurtres, des châteaux, des souterrains. Je le confronte dans mon roman avec Robespierre, puisqu'il a joué un rôle important, Sade, pendant la Révolution. Lui, Sade, n'a jamais tué personne. Il le disait lui-même d'ailleurs, il disait « Je suis un libertin, je ne suis pas un assassin ». Donc ce qui m'a intéressé, c'est de prendre un personnage justement obscurci par le poids de la légende, totalement devenu maintenant une sorte de soleil noir du siècle des Lumières, et de voir un petit peu quel était l'homme derrière le mythe. Et c'est vrai que quand on creuse sa vie, alors là c'est l'auteur de thriller qui parle, là on a une grande surprise parce que c'est beaucoup moins fatigant d'écrire un thriller, parce que tous les rebondissements, il l'a déjà fait pour vous. Voilà, sa vie étant une succession d'avanies impossibles, de rebondissements infernaux, d'amour complètement bizarre, c'est évident que vous n'avez pas vraiment la pression de faire le plan. C'est pas la peine, il suffit de prendre la vie de Sade, tout y est. Vous êtes même obligé d'en enlever à un certain moment, parce que ça devient une vie extrêmement complexe. Pour vous la faire très courte, emprisonné sous Louis XV, Louis XVI, Robespierre, Napoléon, condamné deux fois à mort, deux fois ayant échappé un à la hache, un à la guillotine, et fini dans une asile psychiatrique où il l'apprendra au fou à jouer au théâtre, étant par là même un précurseur de la psychiatrie par le ludisme. Bon, ça reste un personnage totalement, totalement hors norme. Sachant en plus qu'il a eu conscience à la fin de sa vie de sa réputation, parce que j'essaie de les remettre dans le roman, ce qu'on oublie toujours un petit peu, c'est la famille de Sade. Il faut imaginer ce que c'est que d'être la femme du marquis de Sade, ou les enfants du marquis de Sade. C'est un nom que vous portez comme un fardeau. Quand vous vous appelez Sade, c'est pas facile, c'est pas comme s'appeler Léon. Et un jour, son fils lui a reproché, et lui a dit « Non, non, c'est infernal d'être ton fils ». Et Sade a répondu « De toute façon, j'ai beaucoup plus fait pour la postérité, toutes les générations de Sade qui viendront après moi ». Donc voilà, c'est cet homme-là que j'ai essayé un petit peu de ressusciter.
Alors, pourquoi avoir choisi le roman et pas la biographie? Vous êtes, on va en parler après, hein, vous connaissez particulièrement bien l'œuvre de Sade. Pourquoi n'avoir pas fait une énième biographie, justement?
Alors déjà, parce que les biographies sont faites. Et deuxièmement, parce que les biographies ne permettent pas de répondre aux zones d'ombre. Il y a, dans la vie de Sade, des trous. Il y a des périodes que l'on connaît mal. Il y a des réactions qui sont un petit peu imprévisibles. Et surtout dans la période révolutionnaire, il joue un rôle politique qui se termine très mal. Et on ne sait pas les raisons qui permettent ça. Quand vous écrivez dans un roman, vous pouvez reconstituer un arrière-fond, vous pourrez constituer des fils et au moins émettre des hypothèses sur un certain nombre d'éléments de Sade. Et puis quand vous creusez la vie de ce personnage-là, vous tombez sur des mines romanesques qui fait que même quand vous écrivez sur un livre de 500 pages, vous vous dites qu'il en fera encore 500 de plus pour tout dire. Mais je vous donne un seul exemple. Il fait un jour une partie fine à Marseille. Partie fine qui dure 3 jours. Pendant 3 jours, il va, on va dire, les choses très gentiment, s'amuser avec des dames de petite vertu. À l'époque, il existe un Viagra, à l'époque, qu'on appelle la cantharide. On explique à Sade que la cantharide, c'est fait pour les messieurs. Mais Sade, qui parfois est un petit peu, comment dire, téméraire, donne cette poudre de cantharide aux dames de petite vertu. Dames de petite vertu qui, dans les 2 heures, ils se trouvent à l'agonie, parce que ça leur bloque les rames. À ce moment-là, Sade laisse ses 3 femmes très mal en point, rentre chez lui comme si de rien n'était, et se retrouve tout ébahi, 2 semaines après, d'être condamné à mort pour empoisonnement. Les femmes ayant néanmoins survécu. On se dit, voilà quelqu'un qui n'est pas très conscient de ses actes. Comment réagit Sade? Est-ce qu'il court vers le Parlement d'Aix à l'époque pour essayer de revenir sur sa condamnation à mort? Non, non, pas du tout. Il embarque sa belle-sœur de 17 ans qui est chanoinesse et il file à Venise. Quand on a autant de possibilités romanesques avec un personnage, on se dit ça peut continuer. Et on fouille et on voit qu'à Venise, il abandonne sa belle-sœur. Pourquoi? Pour partir avec une femme qui s'appelle Sarah Goudard, dont on s'aperçoit que c'est la maîtresse de Casanova au même moment. Bon, quand vous tirez des fils comme ça, vous avez une envie folle de voir ce qui est au bout. Et avec ça, ça ne finit jamais. C'est-à-dire, vous avez toujours quelque chose de neuf. C'est un personnage qui est totalement imprévisible. Je ne sais pas s'il avait vraiment conscience de ce qu'il faisait, de ce qu'il entreprenait, mais en tout cas, oui.
Sur la fin de sa vie, il avait conscience, comme vous dites,
de sa postérité, oui.
Oui, qu'il avait marqué quelque chose. Alors, on sait que Voltaire, par exemple, lui, était persuadé qu'il resterait comme un grand tragédien. Vous vous dites, au moins, Sade savait qu'il était un grand épistolier, par exemple, que c'était quelqu'un qui savait. Comment on peut mesurer ça, précisément, ce rapport de Sade à sa postérité?
D'abord, Sade, c'est quelqu'un qui vit dans une famille aristocratique et qui est le premier à se penser comme écrivain. Ça, c'est une chose tout à fait exceptionnelle. Les premières lettres qu'il écrit, il fait des doubles quand il a 19 ans et il note la date. Et il les met dans un portefeuille. Et sur le portefeuille, à 19 ans, il marque Sade, homme de lettres. Or, ça nous paraît aujourd'hui évident, mais être un homme de lettres dans une famille aristocratique proche de la cour, son père était ambassadeur du roi, c'est carrément une déchéance sociale, la plus sociale. Aujourd'hui, on passe Voltaire Molière au nu, mais pour toute la noblesse de France, Voltaire, c'est Arouet, c'est le fils d'un notaire, et La Fontaine, c'est le fils d'un tapissier. Qu'un noble puisse être écrivain, ce n'est pas envisageable. Quand on écrit, c'est pour faire des lettres, c'est pour faire de la poésie, pour séduire, comme son père, par exemple, mais c'est surtout pas pour être publié. Il n'y a pas plus honteux. Sade est quelqu'un qui publie très vite, très très jeune. Oui. Très rapidement, il a conscience qu'il va être un écrivain. Et de toute façon, la postérité ne lui donnera pas tort, même de son vivant. Quand il écrit la Nouvelle Justine et la Nouvelle Juliette, dans les années 1797. Le livre se vend au Palais Royal, il se vend 300 francs or. C'est 3 ans de la vie d'un ouvrier. 6 ans après, il se vend le double. Aujourd'hui, une édition de la Justine de la Nouvelle Juliette de Sade se vend 430 000 euros.
Alors, est-ce que Sade, voilà. Ouais, est-ce que Sade songeait, on a le sentiment aussi en lisant, surtout en lisant les lettres, que Sade songeait à sa postérité ? Et que comme Stendhal qui disait « on me lira dans 50 ans ou dans 100 ans », est-ce que Sade n'a pas, d'une façon ou d'une autre, pensé qu'il écrivait pour une époque différente de la sienne, une époque où sa liberté serait entendue ?
Je pense qu'il a organisé sa postérité, d'abord effectivement en gardant toutes ses lettres, même si elles étaient pas mal dispersées, en faisant très attention à ses manuscrits. Mais il a été comme Voltaire, il a eu cette passion du théâtre durant tout le XVIIIe, et il a quand même été quand même relativement convaincu qu'il resterait pour ses pièces de théâtre. Je peux vous assurer que lire les pièces de théâtre de Sade relève du calvaire intellectuel, c'est nul. Mais vraiment, c'est lamentablement mauvais. Même celles de Voltaire sont meilleures, c'est dire. C'est illisible. Et il a essayé d'être joué toute sa vie. Il n'est jamais arrivé.
Vous dites, je pense que dans les lettres, vous dites c'est l'intime de sa vie qui a fait de lui un écrivain de notre modernité. Une sorte d'écho prémonitoire de notre époque.
Oui, je crois. Oui, parce que, en fait, c'est quelqu'un dont les aléas... C'est un des... Au XVIIIe siècle, si vous prenez Voltaire, les aléas de l'existence de Voltaire, en trouver la trace dans ses œuvres, c'est assez rare. Puis vient Rousseau. Là, les aléas dans les confessions, on commence à les voir apparaître. Mais Rousseau, quand même, reste modéré. À partir du moment où vous rentrez dans Sade, Sade, lui, fait rentrer son intimité comme pratiquement personne. Et en ce sens-là, c'est vrai que ça reste quand même un de nos contemporains essentiels. Parce qu'on peut toujours se retrouver un petit peu dans Sade, dans cette vie-là, où rien n'est caché. Absolument rien n'est caché. Sa vie est mise, dès qu'il est marié, sur la place publique, à travers ses débauches et autres. Et il devient très rapidement, malgré lui, une sorte de héros du jour. Aujourd'hui, si vous compariez Sade, vous le verriez dans Gala. Sade, quand il faisait ses débauches, on le retrouvait dans la Gazette de Hollande. Toute l'Europe en parlait. Quand il écrivait ses bouquins, ça se vendait jusqu'au bout du Bosphore, jusqu'en Russie. Donc je pense qu'à un certain moment, cette mise sur la place publique de la vie correspond un petit peu à notre époque, de ce point de vue-là. Sauf que nous la payons parfois par... je ne sais pas, moi, une page dans Facebook ou quelque chose dans Jarla ou un petit écho, Sade, il a payé par 23 ans de prison. Quoi.
Alors justement, on en parlait tout à l'heure, Sade, somme toute, c'est pas... Et votre livre en témoigne bien, c'est pas un si grand criminel que ça.
C'est un malchanceux.
Oui, c'est pas, je veux dire, c'est pas, il a pas un casier judiciaire énorme. Il a une énorme,
il a une vie en prison.
Bon, il a, d'accord, mais
racontez. Nous sommes peu ici. Ouais, mais il a quand même 2 condamnations à mort sur la personne. Je connais peu de gens qui aient 2 condamnations à mort. Mais c'est surtout quelqu'un qui s'est trompé d'époque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Sade n'a absolument pas perçu. C'est que aux yeux de la noblesse française, il restait un petit noubliot de province. Et que ce que pouvait se permettre un Condé ou un Orléans, lui, Sade ne pouvait pas se le permettre. Et ça, il n'a pas compris. Parce qu'il est né, effectivement, dans le quartier de l'Odéon actuel, chez les Condés, mais il n'a jamais très bien compris que sa femme n'était en fait qu'une dame de compagnie des Condés, que ce n'était pas ses cousins germains ou son oncle ou sa tante, ce qu'il a toujours cru pendant un certain temps. Et donc, quand, par exemple, M. de Charolais, un des Condés qui a été son tuteur, pouvait se permettre de faire un pari et d'abattre quelqu'un dans la rue en disant « voilà, je le tue », et qu'ensuite on lui donnait sa grâce parce qu'il était prince de sang, ça, c'était possible. Pour Sade, ça n'était pas possible. Et ça, il n'a pas perçu. Donc, quand il va avoir ses premières affaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'affaire d'Arcueil, où il va rameuter une jeune femme, la mener dans une pièce, la fouetter... Et autre, le scandale va être immédiat. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de protecteur, parce qu'il n'a personne pour arrêter le scandale. Et comme à l'époque, on est dans une logique où l'aristocratie doit paraître vertueuse, on cherche effectivement quelqu'un qui peut endosser le rôle du bouc émissaire. Effectivement, ça devait être merveilleux pour ça.
Oui, il est voilà. Parfait comme bouc émissaire.
Il est parfait comme bouc émissaire. Si vous cherchez l'aristocrate débauché, qui n'a pas de protecteur, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de revenus, qui est mal marié, vous l'avez lui. Et il fait très bien l'affaire pour, effectivement, pouvoir ne pas voir ce qui se passe ailleurs. Parce que quand vous regardez, par exemple, les fameux journaux de l'inspecteur Marais qui enquête sur Sade, ou de Sartine qui était le ministre de la police de l'époque, la dépravation sexuelle sous Louis XV, Louis XVI atteint des sommets, mais je parle des sommets en violence. On invente des machines, par exemple, pour user et abuser des prostituées qui, aujourd'hui, vous vaudraient 30 ans ou 40 ans de prison, qu'on visitait chez des particuliers qui faisaient rire tout le monde. Dans le cas de Sade, ça n'a jamais fait rire personne. Voilà.
Et comment vous expliquez que justement on retienne ça, le contemporain banal dit Sade, c'est un monstre, etc., et qu'on ait complètement occulté ce 18e siècle, voilà, ce règne de Louis XV qui atteint des sommets comme ça d'étrangeté? Comment vous expliquez ça? Pourquoi l'histoire s'est emparée de ça comme ça?
Ben, si vous dites Sade, tout de suite on va parler de sadisme. Si vous dites Louis XV, on dira Louis XV. Mais après, si on vous parle de Louis XV et du parc aux cerfs à des mineurs de 13 ans, c'était la vérité. On peut rentrer Louis XV dans la catégorie. Aujourd'hui, on rentrerait Louis XV dans la catégorie de pédophile. Mais il faut faire très attention quand on juge le XVIIIe siècle. Voilà, le XVIIIe siècle n'a pas nos critères moraux. Et ça, c'est essentiel pour vraiment le comprendre. Je vous donne un exemple classique. La flagellation au XVIIIe siècle, les rapports de police sont remplis de gens, souvent des prêtres et des moines, qui se font flageller. Ça fait rigoler tout le monde. Voilà. On considère que la flagellation, c'est une sorte de remède pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, les aider un petit peu à arriver à faire les choses un peu mieux. Ça pose pas de problème. Aujourd'hui, je pense que ça poserait de gros problèmes. Donc, il faut faire très attention à ne pas juger. Ensuite, il est clair que il est beaucoup plus facile d'incriminer un petit marquis de province qu'un roi de France, c'est évident, hein, c'est la flamme de La Fontaine. Et puis, c'est quelqu'un qui se défend très mal. Lors d'une de ses parties fines, il fouette une jeune femme, il reste des traces dessus, et il veut faire couler de la cire. Je trouve ça drôle. Bon, très bien. Évidemment, quand la cire coule, la dame pousse des cris, les gens arrivent, et ça a de gros problèmes. Quand il est interrogé, il explique que c'est un baume de son invention pour cautériser les plaies. Ça a été toujours aussi un problème de Sade de prendre ceux qui enquêtaient pour lui pour des imbéciles. Et ça, on ne lui a jamais pardonné.
Alors, dans votre livre, on n'a pas évoqué, mais vous savez que vous êtes un auteur de thriller, on peut vraiment dire des thrillers. Vous êtes passé à un roman historique. D'abord, pourquoi vous êtes passé au roman historique? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un enchaînement, il y a une logique ou pas du tout? Qu'est-ce qui peut faire qu'un auteur de thriller, très réputé, qui a de vraies techniques, se retrouve dans le roman classique?
Parce que j'ai été prof très longtemps et j'avais de plus en plus le sentiment que l'histoire était enseignée d'une manière qui, moi, ne me convenait plus, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je suis très admiratif de l'école des annales, je suis très admiratif d'expliquer l'histoire par les masses, d'expliquer l'histoire par les idées. Mais à un certain moment, moi, j'aime bien retrouver une personnalité qui incarne un mouvement. Et je me suis aperçu que, quand je lis énormément d'articles historiques et d'études historiques, je ne retrouvais plus d'humanité, je ne retrouvais plus de personnalité. Et quand j'ai voulu écrire sur Sade et faire un roman historique sur Sade, ça a été vraiment la volonté de le réinscrire dans une histoire et de dire, ben voilà, ces gens que vous croyez connaître ont joué un rôle décisif à un moment de notre époque. Et ce moment décisif est essentiel. Bon, par exemple, il est évident que Sade, à la Révolution française, joue un rôle clé à travers Robespierre, à travers Fouché. Il va être, malgré lui, pris dans une histoire qui va le dépasser encore une fois totalement. Mais moi, ce qui me fascine là-dessus, c'est effectivement de retrouver ces personnes qui font l'histoire à un certain moment, surtout quand vraiment c'est un roman pour lui.
Surtout quand l'histoire les emporte. Voilà. Oui, on a le sentiment qu'à la fois Sade est extrêmement en avance, peut-être dans son regard, dans les lettres, dans la façon qu'il a d'écrire son époque, mais qu'en même temps, l'histoire le balaye systématiquement et qu'il n'est pas assez solide pour tenir.
De toute façon, sa vie, on pourrait écrire un roman comique sur Sade. C'est-à-dire sur Sade le malchanceux. Il tombe amoureux une première fois, il attrape une maladie vénérienne. Bon. Il veut épouser une jeune fille, quand il va pour l'épouser, il s'aperçoit que son père l'a déjà marié avec une femme qu'il n'aime pas. Dès qu'il va faire ses premières fredaines, il va prendre automatiquement des peines de prison, totalement, pour l'époque, disproportionnées, etc., etc., etc. Et ça sera toute sa vie comme ça. Donc, à un certain moment, on peut s'interroger effectivement sur la vision du personnage. Est-ce que vraiment il avait conscience de son époque? Je pense qu'il avait conscience de l'au-delà de son époque. Mais son époque lui-même, C'est un aristocrate perdu dans l'époque de la démocratie, Sade. Voilà. Il continue à avoir des
réflexes d'aristocrate, c'est ça. Voilà.
Voilà, il y a tout un tas de trucs qu'il ne comprend pas pendant la Révolution française. Pourquoi il n'y a plus de perruquiers? Quand il sort de prison, par exemple, et qu'on explique qu'il n'y a plus de perruquiers, ça le terrifie totalement. Et puis, dans le même temps, c'est un type qui va aller devant la Convention en tant que président de la section des Piques et qui va demander l'athéisme absolu avec le rasage des églises, la déportation des prêtres, à un tel point que Robespierre le fera arrêter le lendemain matin. En disant ce mec-là est trop dangereux.
Alors qu'il a deux enfants qui sont expatriés.
Il a deux enfants qui sont expatriés, qui sont monarchistes. Il sait très mal jouer de pas mal de choses. Et à un certain moment, quand il se met à jouer, ça marche. Mais malheureusement pour ça, la partition ne tient qu'un certain temps. Et à un moment, évidemment, il est excessif. Et dès qu'il retombe dans ses excès, alors là, évidemment, c'est absolument le drame. Enfin, les contemporains l'ont vu. Hein, ils ont vu la tête de Robespierre qui se targuait d'être quand même le révolutionnaire, quand Sade est arrivé, auréolé de sa gloire, il avait fait quand même l'éloge funèbre de Marat dans la Panthéonisation de Marat, c'est Sade qu'il fait. Et à ce moment-là, il part, il faut lire le discours. Et Robespierre, à ce moment-là, la guerre tourne mal, la Vendée tourne mal, il veut se rallier des catholiques, et il commence à faire l'aide suprême, à créer la religion de l'aide suprême, à autoriser le culte catholique, etc. Il réclame l'arrestation de Sade. Il fait un discours dans lequel il y a cette phrase magnifique qui s'adresse à Sade. L'athéisme est un luxe d'aristocrate.
Alors, dans votre livre, on en parlait, parce qu'on parlait du thriller, mais on a le sentiment que votre livre exploite bien, justement, cet aspect, ce côté romanesque, mais avec ce sentiment que c'est aussi une victime, Sade, et qu'il est un peu l'objet de gens qui se servent de lui. Alors, parlez-nous un peu de ce Sade manipulé, en quelque sorte. On a le sentiment que vous avez parlé de personnages, alors de personnages qui ont existé, et qui se sont un peu servis de Sade. On parlait du bouc émissaire, mais est-ce que vous n'avez pas organisé votre roman aussi de telle sorte qu'on nous montre que Sade est victime du pouvoir, par exemple, dont il sert véritablement les desseins?
Quand Sade est libéré de la Bastille le 4 juillet 1789, il reste 4 prisonniers dans la Bastille, parce que ça fait très longtemps que Louis XVI a compris qu'on ne pouvait plus conserver une forteresse de ce type-là avec 60 prisonniers à l'intérieur, que c'était une insulte en fait à la raison, mais on conserve Sade. Pourquoi on conserve Sade? Parce que c'est le modèle de l'aristocrate débauché. Celui exactement que la nouvelle génération de philosophes exècre. Il va demander sa libération pendant des années, il ne l'aura jamais. Il prône l'athéisme, Robespierre le fait arrêter, le fait condamner à mort. Bon. Il sort, et là, on l'accuse d'avoir écrit un pamphlet contre Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon, qui n'a jamais écrit, qui s'appelle Zoloé, ce pamphlet. Et là, il en prend pour 11 ans de plus. Mais le problème de Sade, c'est qu'à vouloir chaque fois rentrer dans l'excès, il va heurter des susceptibilités, c'est bien évident. Bon, il faut le reprendre à la Révolution, ça. Sade est libéré en 1790. C'est une histoire assez amusante, il n'a plus de dents, il a pris 35 kilos, il a des poux, il a un matelas, il a une veste en ratine, et comme c'est un grand naïf, il va chez sa femme. Et quand il arrive, le jardinier lui ouvre la porte et lui dit « Ah, je vous croyais mort depuis 15 ans ». Là, il comprend que la famille s'est terminée. Il va se débrouiller tant bien que mal. Et c'est ça que moi je trouve miraculeux, c'est qu'on a un mendiant, un vrai clodo, que l'on retrouve 2 ans après, président de la section des Piques, vivant grassement avec une actrice qui a 20 ans de moins que lui, est devenu, en gros, le gauchiste de la Révolution. Plus à gauche que Sade, il y a Sade. La section des Piques étant l'ultra-gauche de la Révolution. C'était le nivellement par le bas le plus absolu. Il monte en grade, il s'occupe de la réorganisation des hôpitaux de Paris, on lui confie mission sur mission, il fait l'apologie funèbre de Marat. Et puis, à un certain moment, ça s'arrête brusquement quand il devient un véritable danger pour Robespierre, qui le fait arrêter, condamné à mort. Et là, une des choses quand même les plus fascinantes, c'est pour ça que quand on parle de manipulation de complot, c'est que Sade fait partie des 13 derniers guillotinés de la Révolution française. La veille de l'arrestation de Robespierre. On va chercher ces guillotinés dans une pension pour prisonniers malades. On en sort 11, sauf Sade. Sade, j'ai vérifié sur le manuscrit marqué absent, alors qu'il était là. Les 11 sont guillotinés, sauf Sade. Robespierre est arrêté le lendemain, guillotiné. Bah, il s'en sort. La question, c'est c'est pas à tout hasard. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il s'en est sorti? On pense avoir trouvé la solution depuis quelques années. Quand Robespierre est arrêté par les membres de la Convention, c'est-à-dire Fouché, Tallien. Il s'échappe. Il rejoint l'hôtel de ville et il appelle à l'insurrection. Et la section qu'il va appeler à l'insurrection, c'est la section des piques, celle dont ça des présidents. Elle ne bougera pas. J'ai retrouvé, moi encore, au musée Carnavalet, la dernière lettre, il en a écrit trois, que Robespierre envoie à la section des piques pour la soulever. Et dans la dernière, il n'a pas eu le temps de finir la signature parce qu'il a pris un coup de pistolet. La lettre est tachée du sang de Robespierre. La section des piques ne bougera pas. L'hypothèse qu'on a aujourd'hui, c'est que Fouché a négocié avec ça de sa survie. Tu ne fais pas bouger la section des piques et tu as la vie sauve. Il y a cette scène que j'adore au lendemain matin, qui est sa femme, enfin, pas la vraie, sa maîtresse depuis de nombreuses années, qui arrive devant la prison de Sade, et à l'époque la prison est bouclée, et elle veut lui faire comprendre que Robespierre est mort, et que donc lui est vivant, parce que ça s'est joué à 5 heures entre les deux hommes, hein. Et les deux ont été promis la guillotine, c'est Robespierre, et donc elle secoue sa robe, et Sade ne comprend pas. Puis elle prend une pierre, elle tape la pierre, il ne comprend toujours pas. Et à un moment, parce qu'il était un peu myope, il regarde, il voit Robespierre. Et là, il comprend Robespierre. Alors il lui fait oui, oui, comme ça, et elle lui fait. Et là, Sade sait qu'il est vivant, que c'est l'autre qui est mort. Voilà. Bon, à partir de là, c'est romanesque à l'extrême. Problème, c'est que Sade sort, devient auteur de best-seller, il écrit des Justines, il gagne très bien sa vie, il fréquente des actrices, tout se passe bien. Et un jour, dans un repas, il dit « Tiens, je vais écrire mes mémoires sur Robespierre. » Il a oublié juste un détail, c'est que c'est Fouché, ministre de l'Intérieur. Il est arrêté le lendemain.
Alors précisément,
condamné, ouais. Il prend 11 ans.
Voilà. Parce que Fouché est un personnage qui apparaît dès le début de votre roman. Ah, et à Fouché la fin, quel rapport vous voyez entre... Parce que moi, j'ai découvert ça, hein, Fouché avait l'air fasciné par ça, en fait.
Mais Fouché, c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, qui a une carrière politique absolument extraordinaire à cette époque-là. C'est vraiment le démiurge de ces années, c'est lui qui fait tomber Robespierre, c'est lui qui fait tomber Napoléon, c'est lui... Bon, avec Talleyrand, c'est quand même les deux personnages clés de cette époque-là. Et c'est vrai qu'à un moment, il va observer la montée en puissance de Sade, et Fouché est un homme qui pense à un échiquier. Voilà. Les pièces d'échecs. Et quand il a des pièces d'échecs qu'il ne connaît que lui, qu'il peut faire jouer, il n'y a pas d'autre moment où Fouché est le plus heureux. Et... j'invente une scène où on voit Fouché en train de regarder le dossier Sade.
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Et c'est assez fascinant parce que Fouché, quand il a le dossier Sade, et qu'il voit Sade, 3 coups de fouet, 5 ans, alors qu'il vient de tuer plus de 300 personnes à la canonnade à Lyon et qu'il ne fera jamais un jour de prison, ça le fait rire. Il dit Sade, c'est un pauvre raté, c'est un minable, c'est un type qui arrivera jamais à rien. Voilà, comparativement à moi, ce que j'ai fait. Et c'est très curieux de mettre ces deux personnages en côte à côte. Vous avez quelqu'un qui a passé sa vie en prison, qui n'a jamais tué personne. Vous avez Fouché qui a été comblé d'honneur jusqu'à la fin de sa vie, qui a fait tous les régimes politiques avec Talleyrand, et qui lui a du sang sur les mains, a plus pouvoir qu'en faire. Voilà. Et l'un va user de l'autre. Et c'est ça qui est tout à fait curieux, c'est qu'il va en user jusqu'au moment où Sade va avoir envie d'écrire ses fameuses mémoires. Voilà. Et là, évidemment, tout va s'arrêter brutalement. Et ça va s'arrêter une seconde fois, parce que Fouché va l'oublier. Sade, il va l'oublier dans un hôpital psychiatrique, jusqu'au moment où il s'aperçoit que Sade fait jouer la comédie au fou et a instauré la thérapeutique par le théâtre. Et que donc tout Paris se presse, y compris des proches de Napoléon et de la reine Hortense, pour assister à ces scènes où les fous jouent la comédie, où ils ne sont plus fous. Terminé, changement de directeur, Sade est re-interné, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il ne s'en sortira jamais. Il y a une véritable fascination entre les deux personnages. Mais après, qui a gagné, c'est très difficile à déterminer. Je ne pense pas qu'on puisse parler de match entre les deux hommes. Mais...
Sauf que Sade a laissé derrière lui une œuvre et que Fouché n'a laissé qu'un nom. Ou une fascination...
C'est vrai, ouais. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Même alors, si aujourd'hui, l'œuvre de Sade, honnêtement... comment dire ? Qui la lit vraiment ? Qui lit Justine, les 1600 pages de Justine ?
Est-ce que vous avez le sentiment que ça n'avait de valeur que quand c'était justement interdit de le lire ? Moi, je me souviens, chez moi, relié en pleine peau, tout en haut, impossible à atteindre. Il y avait ce côté un peu fascinant. On le lisait en se disant que ça allait être extraordinaire.
Il faut être très clair. Ouais. Sur la production de Sade, vous avez les derniers romans, style La Marquise des Ganges, Isabelle de Bavière, bon, qui tombe des mains de tout le monde. C'est un vieillard qui crie. Il a du mal. Vous avez La philosophie dans le boudoir qui est restée. Parce que c'est un texte court, didactique, assez rapide. La nouvelle histoire de Juliette, ça fait quand même 10 volumes, ça fait 1600 pages. Il y a de très belles scènes, mais enfin, aujourd'hui, 1600 pages, c'est un peu rond. Et puis après, je pense qu'il y a un gigantesque malentendu, c'est Les 120 journées de Sodome. Les 120 journées de Sodome ne sont pas un roman. ça n'a jamais été un roman. Ça n'a pas été écrit pour ça.
Pour vous, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est alors ?
Alors, c'est très curieux, Sainte Journée de Sodome. Sainte Journée de Sodome, quand Sade est arrêté le 4 juillet, il planque le rouleau des 120 journées qui fait 11 mètres de long, qui est roulé autour d'un petit truc, dans un trou du mur. Il ne le reverra jamais plus, et il mourra en pensant qu'il est perdu.
Ah oui, d'accord.
Ce manuscrit ressurgit assez miraculeusement, mais j'ai fait une préface aux 120 journées, en Provence, où il est acheté par une famille qui sait très bien qu'elle achète un autographe de Sade, qui va le conserver quasiment un siècle, qui le vend ensuite en Allemagne. Chaque fois, le prix, vous l'imaginez, monte. Il y a une première publication en Allemagne en 1903, qui est très très fautive. Il y a 642 fautes. C'est-à-dire le lecteur qui a fait ça ne maniait pas très bien le français. Et là, à ce moment-là, il y a un noble de l'époque qui s'appelle Charles de Noailles. Charles de Noailles, c'est le producteur de Buñuel, voilà. Qu'il achète dans les années 1920. Une somme très rondelette. Il l'achète parce que sa femme, Madame de Chivigné, l'arrière-petite-fille de Sade, et le fait publier. Et là, on a pour la première fois les 120 journées de Sodome. Et ça tombe dans les mains des surréalistes, c'est-à-dire André Breton. Et là, c'est... Oh, c'est le sommet de la littérature, c'est la limite de la littérature, c'est le livre ultime. Bon. C'est figé. Vous regardez toutes les préfaces qui ont été faites aux 120 journées depuis maintenant, celle de Pauvert, celle d'Annie Lebrun, etc. C'est la dernière en date là, qui a été faite par Annie Lebrun, c'est un bloc d'abîme, voilà. Le problème, c'est qu'il faut le replacer dans le contexte. Sade n'a jamais écrit les 120 journées en vue de publication. Sade n'a jamais écrit les 120 journées comme un roman. La réalité est tout autre. Sade avait un problème sexuel qu'il écrit dans une lettre qui s'appelle La vanille et la manille, où il explique qu'il a un retrécissement du canal de l'urètre. Retrécissement tel que si le plaisir et l'érection sont possibles, en revanche, l'éjaculation ne l'est pas. Et qu'elle est très, très, très difficile. Quand il n'était pas emprisonné, il remédia à ce problème-là par la flagellation, dans des proportions qui aujourd'hui nous paraîtraient absolument démentielles, parce que quand il est arrêté à Marseille après 3 jours de débauche, on sait qu'il a fait 743 flagellations. Je ne sais pas très bien comment il s'en est sorti. On sait que la servante des prostituées, par exemple, les fous ayant cédé, est allée acheter un balai de Bruyère. C'est dans le rapport de police. Là, moi, ça me dépasse un peu, je dois vous l'avouer. Mais quand il est en prison, il n'a plus cette ressource. Et là, on a ses carnets, où il explique très nettement qu'il n'y arrive pas. Et ça va durer pas mal de temps. Et les problèmes de santé commencent. Maux de tête, migraines, problèmes oculaires, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'en écrivant des scènes d'une violence inouïe du point de vue sexuel, tout simplement, ça déclenche ce qui lui était nécessaire. Et donc il va écrire les 120 journées à des buts, en fait, quasi thérapeutiques. On va dire que c'est son carnet d'excitation. Mais il n'aurait jamais pensé, le marquis de Sade, qu'un jour, ça finirait dans la Pléiade. Enfin, honnêtement, je ne sais pas où il est, le marquis, mais si aujourd'hui il voit la Pléiade, il doit rire. Hein. C'est inimaginable pour lui. C'était un bouquin technique. Comme un amateur va prendre des photos obscènes, si vous préférez, et va se les regarder le soir tout seul. Voilà, c'était ça. C'est devenu un monument de la littérature française. Alors pour la petite histoire quand même, le manuscrit après publication, la famille de Noailles se l'est fait voler en 1930. Il a atterri en Suisse, où il a été récupéré par un collectionneur des reliques suisses appelé Norman, qui a fait une pièce entière pour abriter le manuscrit, une pièce ronde avec un cylindre en acier dans lequel le manuscrit est mis. Et M. Norman est mort il y a maintenant 5-6 ans. Et ses héritiers, qui n'ont absolument pas la fibre érotique de leur grand-père, souhaitent vendre le manuscrit des 120 journées de Sodome. L'État français s'est donc porté acquéreur pour la somme de 4,5 millions d'euros. C'est pas rien. Problème. Depuis 1930, les Noailles ont porté plainte. Et depuis 1930, tous les 10 ans, les Noailles réactivent la plainte. Ce qui fait que si l'État français achète le manuscrit aux héritiers Norman et qui rentre en France ou qui sort de Suisse, la famille Noailles récupère immédiatement le manuscrit et la France perd 4,5 millions d'euros. Donc la situation aujourd'hui est bloquée. Donc le manuscrit est encore maudit.
La postérité de Sade
est encore maudit 200 ans.
Est encore romanesque en quelque sorte.
Ouais.
Alors, on parlait de Casanova tout à l'heure. Casanova, c'est l'anti-Don Juan. Hein. C'est un homme qui était amoureux des femmes, véritablement. Ce n'était pas un manipulateur. Et la vision que vous donnez de Sade me paraît être la vision d'un homme amoureux, quand même. Et non pas... Alors, il y a toute la partie, effectivement, technique, etc., la partie excitante. Mais, somme toute, vous nous présentez un homme amoureux. Est-ce que c'est cet homme que vous avez rencontré dans les lettres que vous avez pu lire, etc., cette dimension-là?
Dans tous les courriers, les lettres que l'on peut avoir de Sade, je n'y ai pas trouvé ce qu'on trouve dans ses romans. Je n'y ai pas trouvé une femme, je dirais, réduite à l'état de servitude sexuelle. Ce n'est absolument pas le cas. Simplement, il a eu des aventures sentimentales qui, comme sa vie tout court, ont été extrêmement, extrêmement malheureuses. Il est tombé très jeune amoureux d'une demoiselle de Loris, dont il ne nous reste rien, si ce n'est une lettre à Avignon. C'est tout ce qu'on a d'elle. Et cette jeune femme, il souhaitait absolument l'épouser. Malheureusement, après une première rencontre, on va dire, au creux d'une alcôve, elle lui a laissé un souvenir mémorragique extrêmement marqué. Et son amour s'est arrêté là, brutalement. Il a été ensuite marié à sa femme. Alors là, il faut avouer
qui est un cas un peu particulier, quand même, sa femme. Enfin, vous ne la gâtez pas.
Ben, elle était déjà pas gâtée. Pauvre René, Pélagie, il faut repasser les choses dans leur contexte. La famille de Sade est totalement ruinée. Et à un moment, le père de Sade, qui n'a que ce fils, qui est un bon lecteur de Madame de Sévigné, reprend une citation de Madame de Sévigné: pour que les terres redonnent, il faut remettre du fumier sur les terres. Remettre du fumier sur les terres, c'est épouser des filles avec des dotes. C'est-à-dire des filles qui ne sont pas de l'aristocratie de sang, mais de l'aristocratie de robe. On lui trouve donc un de ses cousins, à qui doit beaucoup d'argent, lui trouve une famille de Montreuil. Bon, le père Sade tique un peu, ils n'ont que trois quartiers de noblesse. Mais enfin, ils ont 300 000 livres de rente. Et on annonce à Sade, au matin, qu'il a été vendu et marié. Il n'assistera même pas à son mariage. Hein. Quand il arrivera, c'est fini, c'est fait. Alors on l'amènera dans l'église. Et c'est vrai que quand il découvre René Pélagie, on a les rapports de police de l'inspecteur Marais de l'époque qui dit, bon, c'est vrai, Sade, il en fait pas mal, mais enfin, quand on voit sa femme, trois points de suspension, bon, voilà. Voilà. Le drame de René Pélagie, c'est qu'elle va tomber éperdument amoureuse de son mari. Mais éperdument amoureuse de son mari. Sans se rendre compte dans quelle vie infernale il va la mener. Et c'est vrai que toutes les familles Sade, Montreuil, vont s'effondrer autour de cet homme-là qui, évidemment, est totalement désordonné. Il va être emprisonné à la Bastille, où il va rester 11 ans. Et là, cette femme va s'obstiner à l'aimer. Alors que franchement, il la traite d'une manière extrêmement, extrêmement...
Elle, c'était plutôt la partie masochisme, alors, en fait, avant
le... Oui, oui, on peut effectivement le voir comme ça, parce que c'est quand même un homme qui l'a trompé hontément, qui a ruiné sa famille, mais qui, en plus, a débauché sa jeune sœur de 17 ans avec qui il est parti à Venise. Voilà. Et il y a tout pardonné.
Qui est aussi une histoire d'amour, malgré tout. Hein.
Ça va être sans doute sa grande histoire d'amour, c'est-à-dire qu'à un moment... il est emprisonné, puis bon, le roi le relègue dans ses propriétés provençales au château de la Coste, dans le sud de la France, dans l'Huberon très exactement. Où il s'ennuie grandement, où il fait construire un théâtre, où il lutine un petit peu les paysannes du coin, jusqu'au jour où débarque sa jeune belle-sœur, qui est chanoinesse, qui a 17 ans, qui arrive de Lyon. Et là, il va avoir, on le voit dans les lettres, un très très curieux moment où il va dire ça y est, j'ai trouvé la pureté, ce qui manquait à ma vie, ça y est, c'est fait, c'est la pureté, elle incarne la pureté. Elle l'incarnera pas longtemps, puisque 3 mois après leur liaison, il y a la fameuse affaire de Marseille avec les prostituées, et là tout à coup on s'aperçoit que le Sade est de retour, et bien évidemment, mais elle le suivra. Et ce qui est très étrange, c'est que le jour où elle le quittera, il est à Chambéry, elle lui envoie une lettre en lui disant « Mais voilà, tout est absolument terminé. Je vais d'ailleurs épouser le neveu de l'évêque de Paris. » Alors ça ne pouvait pas être pire pour Sade, parce qu'il haïssait les catholiques et les prêtres. Donc là, c'est le désastre. Il va leur envoyer 2 lettres en essayant de la convaincre qu'il vienne la voir. Elle lui explique « Non, c'est terminé. » Et à ce moment-là, Sade se tranchera les veines. Il fera une tentative de suicide, dont il réchappera. Il mettra pratiquement 2 semaines à en réchapper. Et ça a été sa grande passion. Il va être enterré à la Bastille, il demandera des nouvelles durant des années à sa femme, on ne lui en donnera pas, et en fait tout simplement elle est morte très jeune, à pratiquement 30 ans. Et il conservera jusqu'à la fin de sa vie le médaillon de sa femme. D'ailleurs, c'est assez terrible parce que quand sa femme vient lui rendre visite à la Bastille, le gouverneur de la Bastille lui fait remarquer un jour qu'il n'y a pas son portrait à elle dans le cachot, qu'il y a le portrait de sa sœur. Et elle continuera malgré tout à y aller. Et très bizarrement, ça c'est une énigme, 6 mois avant qu'il ne soit libéré, elle le lâche. Brutalement, sans explication, ça reste un gros mystère, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien trouvé. Et elle annonce partout qu'il est mort. Elle part. Et elle le laisse, elle ne le reverra jamais. Jamais. Lassitude à un certain moment, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les biographes les plus affinés prétendent qu'elle était devenue de plus en plus croyante et religieuse. Elle vivait dans un couvent, à la demande de son mari.
Comme sa propre mère.
Sa propre mère aussi a fini dans un couvent. Et qu'à un moment, ça a été trop. Voilà. Mais ça reste un véritable mystère.
Alors il y a un autre personnage dont vous parlez, qu'on découvre véritablement, c'est le père. C'est le comte de Sade.
Voilà, oui, c'est
alors il y a une chose particulière, c'est qu'on dit toujours d'ailleurs le marquis de Sade, alors qu'à la mort de son père, il aurait dû hériter du titre.
Alors, c'est le comte de Sade.
C'est le comte de Sade. Mais on découvre ce comte qui est un personnage très étrange, qui semble posséder déjà un peu les caractéristiques de son fils. C'est un libertin. C'est un grand séducteur qui...
C'est une crapule. C'est une vraie crapule.
Comment avez-vous découvert ce personnage? Comment trouvez-vous qu'il s'inscrit le fils là-dedans?
Il faut expliquer simplement une chose très amusante, c'est que la famille de Sade, qui existe toujours, a conservé l'intégralité des papiers de famille du père et du fils. Une correspondance qui remplit un grenier entier. Et la famille de Sade, à l'heure actuelle, ne vit pas que de ça, mais vend petit à petit des éléments. Et à un certain moment, des chercheurs, il y a une vingtaine d'années, sont allés sortir la vie du père de Sade, dont on s'est aperçu que c'était une vie de roman aussi. Alors pour la faire très rapidement, alors lui né en Provence, c'est vraiment un petit noblio, il monte très rapidement, il a deux talents. Il a un talent sexuel apparemment évident, et c'est un, paraît-il, bon poète. J'ai lu ses poésies, j'ai pas trouvé...
Marivaux de Provence,
vous le savez. C'est Marivaux de Provence.
Il y a déjà un écrivain dans la famille.
C'est un garçon qui a 30 ans, à qui Voltaire écrit « Vous qui baisez mieux que Pétrarque et écrivez aussi bien que lui ». C'est quand même assez étonnant. Il va monter par les femmes. C'est le bel ami, si vous préférez, de l'époque. Il monte par les femmes, et à un moment, il arrive quand même ce coup de force étonnant. Il est à la fois l'amant de la Pompadour, quand même pas mal à 30 ans, et l'amant de la sœur des Condés, mademoiselle de Charolais. Là, il est à son maximum. Ça va vite s'arrêter, puisqu'on va lui mettre sous la main un rapport de police qui existe toujours, où il s'est fait attraper, comme dit le texte, et j'adore ça, dans la culotte d'un autre. Et là, il comprend qu'il peut Condé, mais il ne peut pas Pompadour. Parce que sinon, ça va très mal se terminer. Et pour pouvoir continuer à coucher avec mademoiselle de Charolais, il épouse sa dame de compagnie, Mlle de Maillet, qui est la future maman de Sade, mais qui ne s'apercevra que 6 mois après que dans le mariage, elle s'est fait rouler totalement parce que son mari, en fait, couche avec sa patronne. Bah. Et quand elle s'en rendra compte, elle tiendra 1-2 ans, le temps de faire Donatien, et ensuite elle disparaîtra totalement et va s'enterrer dans un couvent. Pendant cela, le père continue son ascension sociale, il devient ambassadeur du roi. Après avoir été espion, alors, il y a une anecdote qui est très amusante. Comme il n'avait pas beaucoup de titres pour être ambassadeur, on lui avait conseillé de faire quelques espionnages dans ce qu'on appelait les royaumes du Nord à l'époque. Et on lui avait conseillé l'Angleterre. Et donc, il s'était rendu en Angleterre. Et là, il avait cherché à rentrer, dans l'aristocratie anglaise, en vain. Et le seul moyen qu'il avait trouvé, c'était de se faire initier franc-maçon. Et donc, il a été initié franc-maçon le même jour que Montesquieu à Londres. Il n'a jamais plus refoutu les pieds de sa vie dans une loge, il s'en foutait complètement, mais ça lui a permis d'avoir des informations. Il devient ambassadeur du roi dans une petite cour d'Allemagne, ça va s'arrêter très brutalement. 6 mois après, il a piqué la maîtresse du roi, il l'a ruinée au jeu. Il se fait expulser, emprisonné, et là Louis XV dit « Non, là c'est terminé, on n'en veut plus ». Et là il devient, ce que je décris dans mon roman, c'est-à-dire un vieux libertin aigri, qui prétend que tout le monde lui en veut, etc., et qui se concentre sur son fils Donatien, et ils n'ont qu'un seul problème, l'argent. Et donc il vend son fils à un certain moment, la famille de Montreuil. Voilà. Et il est très lucide, parce que dans sa correspondance, il dit « Je l'ai plaint d'avoir fait l'acquisition de ce petit galopin, il ne le rapportera que du malheur, mais moi j'en suis débarrassé. »
Voilà. Alors, on sent que vous avez un vrai plaisir enfin, votre fréquentation de la littérature pour tous les personnages. Enfin, là, le père, c'est vraiment c'est un vrai personnage de roman lui-même. On a l'impression même que vous vous retenez presque de ne pas en faire plus autour de ce personnage.
On peut en faire beaucoup plus sur lui.
Mais on sent que vous aimez aussi beaucoup les seconds rôles, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez un tempérament qui les fait ressortir. Alors, Gadagne, qui est un personnage vraiment étonnant, alors, qui a existé. Ce qui est étonnant, parce que je vous ai posé la question avant, vous n'avez pas inventé vous n'avez quasiment pas inventé de personnage.
C'est un cousin du père de Sade, qui à un certain moment veut récupérer une dette que lui doit le père de Sade. Et quand le père de Sade dit « Mon pauvre ami, je suis ruiné », l'autre lui dit « Mais vous inquiétez pas, on va marier votre fils. Et quand vous l'aurez marié, vous me rendrez la dette. » Et c'est lui qui trouve les Montreuil.
Mais vous avez... Alors, il y a tout ce personnage...
C'est un cheval, Sade. Ouais. Hein,
mais voilà. Tous ces personnages de police, notamment, alors qui devaient être assez liés aussi à vos habitudes d'auteur de thriller, mais on sent que vous avez un réel plaisir dans la pratique de ce monde policier qui est quand même très étrange. La police du XVIIIe siècle.
Voilà, il faut bien comprendre qu'on est sous le règne de Louis XV, sur un roi vieillissant, vraiment très vieillissant, qui est un libertin dont les capacités, on va dire, commencent à perdre de leur efficience. Et il réclame, Louis XV, tous les soirs, une lecture des faits les plus scandaleux de Paris. Celui qui fait la lecture, c'est Gadiane, qui est un favori, qui lui-même l'a fait faire par Sartine, le ministre de la police, qui lui-même demande à l'inspecteur Marais de lui donner les rapports de police du jour. Ces rapports de police ont été conservés, ils sont à la Bibliothèque nationale de France, et c'est là où on voit apparaître le jeune Sade, très tôt. Très très tôt. Et c'est absolument fascinant, parce qu'il y aurait un roman à faire entier sur les rapports de police de Sade. Et cet inspecteur Marais, Sade, ça va être son cauchemar. Parce qu'il va le rencontrer, au début il va le prendre vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un petit noblio, voilà, qui a quelques aventures. Et puis au fur et à mesure qu'il va le voir arriver en réputation, il va passer sa vie à le persécuter dans toute la France, à l'arrêter, etc. Et il va avoir des sentiments extrêmement ambivalents pour lui. Par exemple, la troisième fois où il le rencontre, il écrit ses textos, on n'en entendra jamais plus parler. Voilà. Il se passe un an, et là, du marquis de Sade, on va en entendre parler. Et à un moment, il y a une phrase admirable, on sent que Sade lui pèse. Et quand Sade commence à avoir des aventures avec des courtisanes, il y a une sorte de satisfaction en se disant, là il va se faire plumer définitivement, on ne le reverra plus. Et j'en entendrai plus parler. Et à un moment, il tombe sur la Beauvoisin, et là, cet inspecteur Marais, alors on n'a pas sa date de naissance, on n'a pas sa date de mort, sa biographie est réduite à zéro, on ne connaît qu'à cause de Sade. C'est ça qui est terrible, en fait. Je n'ai pas pu retrouver de portrait, je suis allé aux archives de la police, il n'y a rien. Absolument rien, parce que ça m'aurait vraiment intéressé d'avoir la tête qu'il avait, mais je ne l'ai pas. Et à un moment, donc, il dit, voilà, Sade vient de tomber sur la Beauvoisin, et là, il dit, il va être rincé. C'est fini. Le problème, c'est Sade qui rince la Beauvoisin. C'est-à-dire que quand Sade quitte la Beauvoisin, il n'a plus rien. Il a entièrement dépouillé de tout. Elle lui a même fait un prêt, gagé sur ses bijoux, qu'elle ne reverra, bien sûr, jamais. Et c'est à ce moment-là que Marais comprend qu'il s'en sortira jamais. Il fera tout. Il ira l'arrêter trois fois au château de la Coste. Deux fois, il le ratera. Il l'arrêtera à Paris. Ça veut dire son véritable cauchemar. C'est pour ça que j'en fais un personnage du bouquin, parce qu'effectivement, c'est un client merveilleux, quoi.
Alors, l'heure tourne. C'est vrai qu'on est tellement dans le romanesque qu'on pourra en parler énormément. Vous publiez simultanément donc des correspondances, des choix de correspondances de Sade. D'abord, expliquez-nous comment il se fait que pour quelqu'un qui est un aussi grand épistolier, c'est toujours été mal fait, la correspondance de Sade en France. Il n'y a pas de réelle édition. Est-ce que c'est parce que c'est un cauchemar éditorial, d'ici le reconstituer ?
Il y a à peu près 1200 à 1300 lettres connues et répertoriées. C'est un cauchemar pour les retrouver. Parce que le problème de Sade, c'est que c'est le délice des collectionneurs. Une lettre de Sade aujourd'hui sur le marché, une lettre de 4 pages de Sade coûte 23 000 euros. Voilà, c'est le tarif. Je l'ai vérifié encore ce matin, la dernière qui était en vente, sur eBay d'ailleurs, entre parenthèses. Je ne sais pas si sur eBay achète une lettre de Sade à 23 000 euros, mais enfin, c'est le cas. Donc, les gens qui les ont les gardent de manière extrêmement précieuse. Donc, c'est dispersé sur toute la planète. C'est quasiment impossible aujourd'hui de faire une correspondance totale de Sade, parce qu'on ne peut pas. Voilà, les avoir. Alors, il y a à l'heure actuelle un collectionneur qui engloutit une fortune considérable pour récupérer un pan de la correspondance et spécialise sur les lettres à sa femme. Là aussi, ce sont des sommes qui sont astronomiques, puisque est passé à Sotheby's, Londres, une lettre de Sade à sa femme de 11 pages, et la mise à prix était 50 000 euros. Donc, vous imaginez, il y a à peu près 340 lettres. Si vous multipliez par ces chiffres-là, ça fait des sommes qui sont très difficiles. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas la capacité d'avoir une institution, une collection qui possède 100, 200 ou 300 lettres de Sade. Donc, il n'y a que des éditions fragmentaires. Donc, vous êtes obligé d'aller chercher dans des médias, dans des journaux, dans des ceci, etc. Donc, moi, j'ai choisi d'en extraire une centaine et de publier celle qui était le plus significative. Mais c'est vrai qu'une édition in extenso de Sade, il y a Voltaire, il y a Montesquieu, il y a Rousseau, mais vous n'avez pas Sade, il y a très peu de chances
que ça existe jamais.
Qu'on l'ait un jour, parce qu'elles sont très difficiles à fournir. On en trouve et on en retrouve.
Et c'est ce Sade-là, finalement, que vous aimeriez qu'on lise, finalement. Ce serait un beau complément
à mon avis,
avec ton roman.
Très honnêtement, aujourd'hui, à part peut-être Justine et Juliette et la philosophie dans le boudoir, c'est très difficile de lire Sade. En revanche, un épistolier, il est fabuleux parce qu'il est totalement excessif. Il est toujours hors contrôle. Et ce qui est frappant, c'est Sade dans sa correspondance, c'est qu'il est de mauvaise foi totale. Voilà, moi, c'est ce qui me fascine absolument, cet homme-là. Quelqu'un qui peut écrire en toute quiétude. Ce n'est pas ma manière de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. C'est celle qu'il souhaitait qu'ils remettent sur sa tombe.
Bon, honnêtement, on pourrait en parler des heures. Vous en parlez extraordinairement bien. Donc, vous n'êtes peut-être pas fasciné, mais en tout cas très intéressé par le personnage de Sade. Et j'espère que la lecture de ce livre fera changer pas mal d'opinions aux gens qui, effectivement, comme vous le dites, pour Sade, c'est souvent quatre lettres qui ne veulent rien dire. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir répondu à nos
questions.
C'est
moi qui vous remercie.
Merci beaucoup. Si vous voulez faire signer votre livre, vous serez parmi les premiers, puisque le livre, je le répète, sort demain.
C'est vrai. J'avais complètement oublié ce détail. Ce détail fâcheux.